Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quel bilan de la 34e édition sur le thème du Grand Dialogue de ce soir? La Coupe d'Afrique des Nations CAN a pris fin le 11 février dernier. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, hôtes de la compétition, ont été sacrés champions grâce à leur victoire sur les Super Eagles du Nigeria, battus 2-1. Quel temps réglementaire? Quelles sont les principales leçons à tirer de cette compétition? Cette CAN a-t-elle été une réussite? Comment expliquer l'échec de certaines grandes nations? Studio Tamani ouvre le débat avec nos invités. Abdoul Dembélé, journaliste sportif, bonsoir.
Bonsoir.
Ousmane Dao, journaliste sportif également, bonsoir.
Bonsoir.
Awa Kamisoko, journaliste sportive, que j'espère l'avoir au cours de ce grand dialogue. Je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Je commence par vous, Ousmane Dao. Quel bilan faites-vous de cette compétition de la CAN?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité pour le Grand Dialogue. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là et de parler football à Studio Tamani. Moi, je dirais que de ce que je retiens comme bilan tout de suite après la CAN, c'est que pour moi, ce fut la meilleure CAN de ces 30 dernières années. On avait eu un débat ici avant le démarrage de la CAN. Je l'avais dit, j'avais dit qu'on va avoir la meilleure CAN possible de ces 30 dernières années. Pourquoi? Puisque les équipes ont relativement le même niveau. Certaines équipes ont travaillé, ont décidé de bouger, alors que d'autres sont restées sur leur palmarès. Je suis tel pays, j'ai tel CAN, ou sont restées suspendues à l'exploit de l'unique star de l'équipe. Donc je pense que pour moi, cette CAN a été une réussite totale sur le plan du jeu. Sur le plan organisationnel, je n'y étais pas. Abdoul est mieux placé de parler de l'organisation, mais de ce que j'ai vu à travers les écrans, je pense que sur le plan organisationnel également, ça a été une belle CAN.
Bientôt, quels ont été les points positifs ou négatifs de cette compétition selon vous?
Les points négatifs, je commencerai par ça, c'est peut-être l'état de certains, l'état de la pelouse de certains stades, excepté peut-être le stade Félix Houphouët-Boigny qui avait une pelouse extraordinaire, le stade de Pimbé Alassane Dramane Ouattara, la pelouse laissait trop à désirer, ça n'a pas laissé place au jeu, et même le stade de la Pète Boaké, la pelouse ça va. Maintenant les autres, C'est la pelouse à mon niveau, au niveau du stade principal de la compétition où a eu lieu l'ouverture et la finale. Maintenant, les points négatifs, c'est peut-être l'absence, et ça ne date pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'absence du public dans les autres rencontres, excepté les rencontres du pays organisateur. On avait stade plein quand la Côte d'Ivoire jouait, ça se comprend, c'est le pays organisateur, mais il faudrait que la CAF réfléchisse, ou les pays organisateurs prochainement réfléchissent, comment remplir les stades. Quand le pays organisateur ne joue pas, c'est pour moi, ça a été le point négatif.
Abdoul Dembélé, vous avez été sur place. Quel a été, selon vous, le bilan de cette compétition?
Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Studio Tamani d'avoir passé à moi pour ce débat. Ensuite, je dirais que sur le plan organisationnel, je parlerai surtout déjà.
Nous allons parler du plan organisationnel très bientôt.
Bon, les bilans sportifs, je dirais que cette CAN a été l'une des plus belles CAN, notamment sur le plan sportif. Les pays, comme le doyen l'a si bien dit, qu'on disait les petites nations du football africain, ont prouvé que présentement, là où nous sommes, il n'y a pas de petites nations. Comparativement aux grandes nations, les petites nations ont un football collectif. Le jeu n'est pas basé sur une telle star ou bien une telle personne. Les petites équipes nous ont prouvé que c'est le jeu collectif. Quand l'équipe produit un bon jeu collectif, l'équipe peut faire une belle compétition. Alors, je dirais chapeau aux petites nations. Déjà, quand on regarde le classement FIFA qui est sorti hier, l'Angola a grimpé. On peut dire que cette CAN a été une belle compétition pour les petites nations.
À comparer à la précédente CAN, qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous?
Quand on me dit de comparer à la dernière CAN, je dirais que tout a marché. Tout, non seulement, le doyen l'a si bien dit, à part les stades Alassane Dramane Ouattara, l'état des pelouses était acceptable. Ça permettait aux équipes de produire du beau jeu. Déjà, l'ambiance autour des équipes de la ville, il y avait une belle ambiance. Là, je peux dire que cette CAN, comparativement à l'année, à la CAN dernière, je peux dire que ça a été une réussite.
D'accord. Vous avez commencé déjà à amorcer. Sur le plan organisationnel, qu'est-ce que vous a marqué?
Sur le plan organisationnel, je dirais plutôt les terrains d'entraînement des équipes. Vous savez, pour cette compétition, les Ivoiriens ont mis à la disposition de chaque équipe participante un terrain d'entraînement. Et tous les entraîneurs, pratiquement, je peux le dire comme ça, tous les entraîneurs, avant la conférence de presse, d'avant ou d'après match, quand on leur demandait de faire une appréciation de cette compétition, ils nous disaient que les terrains d'entraînement qui ont été mis à la disposition des équipes, la pelouse était très bonne. Alors, qui parle de jeu doit parler forcément de l'état de la pelouse. Parce que l'état de la pelouse, ça compte beaucoup pour produire du beau football. Alors, ça, c'est le premier aspect. Alors, le second aspect, ça, c'est au niveau des journalistes. Alors, on a vu, durant la compétition, avant, au moins, à 2h, 3h, avant le match, les journalistes avaient à leur disposition un centre média super équipé. Il y avait la connexion, il y avait les ordinateurs pour les journalistes pour pouvoir au moins après ou avant, parce qu'il y a des télés qui produisent des images avant le début de la rencontre et à la fin de la rencontre, il y avait des logiciels pour faciliter le travail.
D'accord. Alors, vous l'avez dit, hein, que c'est la meilleure CAN depuis les 30 dernières années. Sur le plan du jeu, comment trouvez-vous les prestations de ces équipes?
Sur le plan du jeu, il n'y a pas beaucoup de choses à reprocher aux équipes. On a vu le spectacle, on a vu des matchs indécis, on a vu des équipes qui n'ont rien lâché, on a vu des équipes qui ont produit un meilleur football, comme le Cap-Vert. C'était un football sans complexe. C'était un football plaisant à voir. Elle avait des certitudes, l'équipe capverdienne. Elle a continué sur ses certitudes dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y avait pas de superstar. C'était un travail collectif et avec un entraîneur qui est là depuis un certain nombre d'années. Je prendrai également le Mali. Je sais même si on va y revenir. Si on doit décerner une médaille d'or par rapport au jeu, le Mali aura cette médaille d'or, à n'en point douter, puisque le Mali avait le meilleur football produit sur le terrain. Justement sur le terrain. Maintenant, les autres équipes ont fait avec les armes qu'elles avaient. Les autres équipes sont venues à la CAN avec des idées, notamment sur le plan du jeu, comparativement à la CAN au Cameroun, où c'était des matchs parfois étriqués, où c'était des matchs souvent indécises sur le talent d'un joueur. Par exemple, l'Égypte a gagné pratiquement toutes ses rencontres à élimination directe en 2019, qu'au tir au but, l'Égypte n'a quasiment pas gagné dans le jeu qu'une seule fois face au Maroc.
Comment expliquez-vous l'élimination précoce de certaines équipes données pourtant en favorite?
Favorite par nous journalistes et peut-être par certains observateurs. Mais la CAN, je dis très souvent, à la CAN, il n'y a pas d'équipe favorite dans une phase finale de CAN. L'équipe la mieux préparée, l'équipe la mieux organisée sur le plan du jeu et sur le plan mental est l'équipe favorite d'une Coupe d'Afrique des Nations. On peut se fier aux anciennes Coupes d'Afrique ou au palmarès de certaines nations pour dire que l'Égypte, la nation la plus titrée, forcément au début d'une CAN, sera favorite. Elle est restée sur deux finales jouées sur les trois dernières. Le Cameroun 5 fois vainqueur, le Ghana 4 fois vainqueur, le Nigeria 3 fois vainqueur, maintenant il y aura la Côte d'Ivoire 3 fois vainqueur, l'Algérie 2 fois, le Maroc 1 fois, le Soudan 1 fois et la RD Congo 2 fois également. Donc je dis que l'Afrique du Sud 1 fois, le Congo Brazzaville 1 fois, une CAN, pour moi il n'y a jamais d'équipe favorite au début d'une Coupe d'Afrique des Nations. Pour répondre à votre question, si nous prenons l'Égypte par exemple, nous avons vu que l'Égypte, le football égyptien dépend beaucoup de la performance de ses clubs, notamment les deux les plus forts, le Zamalek et le National Al Ahly du Caire. Aujourd'hui, ces équipes de clubs en Égypte sont dominées quasiment par des étrangers. Les postes clés de ces équipes sont détenus par des étrangers. Et ça influe sur la performance de l'équipe nationale d'Égypte, surtout que cette équipe nationale d'Égypte, elle était, je dirais comme ça, permettez-moi l'expression, Mohamed Salah dépendant. Ça tenait qu'aux fulgurances de Mohamed Salah. Et depuis que Mohamed Salah s'est blessé, un ressort s'est cassé dans cette équipe de l'Égypte. Prenons le Ghana. Le Ghana est en manque énorme de talent. Énormément de talent. Le Ghana a été la première nation, a gagné 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations, mais le Ghana produisait tous les talents du football africain quasiment. On peut citer Abdoulkarim Razak, on peut citer Ibrahim Ali, on peut citer Abedi Pelé, on peut citer après eux Michael Essien, Kwadwo Asamoah, Jan Asamoah, Stéphane Appiah. Le Ghana, c'était le réservoir du talent en Afrique. Aujourd'hui, le Ghana est en manque de talent. Donc, le football ghanéen est en net regret tous les ans quasiment. C'est quasiment 2 éliminations de suite à une phase finale de coupe. Au premier tour d'une phase finale, on ne voyait quasiment plus ça avec le Ghana. Prenons le Maroc. Le Maroc, je pense que le Maroc est resté sur sa 4e place à la Coupe du Monde. Être 4e d'une Coupe du Monde avec un jeu différent, c'est une compétition différente. Ça se jouait dans un pays arabe, c'est que le climat était favorable aux Marocains également. Donc le Maroc est toujours resté sur ça. On est 4e, on vient à la CAN, c'est une formalité. En témoignent les investissements que la Fédération royale marocaine a fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que pour eux, la CAN était un acquis. Le Maroc a oublié que, un, il venait vers une partie du continent qui est très souvent hostile aux équipes maghrébines, excepté l'Égypte qui a gagné la CAN au sud du Sahara, en 1957 au Soudan, la première CAN, ensuite au Burkina en 1998, en 2008 au Ghana, en 2010 en Angola, plus rien des autres pays maghrébins. Certes, en 1976, le Maroc a gagné, mais c'est au tir au but, c'est au nombre de corners. Donc je dis, je ne prends pas souvent cette CAN du Maroc de 1976. Mais le Maroc a oublié que cette partie du continent est hostile au football maghrébin. Les pays du Maghreb, entre guillemets, ne gagnent quasiment jamais au sud du Sahara leur Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont forts, ces jeux. Ensuite, quel est l'état de la forme actuelle des joueurs marocains qui étaient les animateurs pendant la Coupe du Monde? À part Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, les autres ne sont plus titulaires dans leur club. Ils ont perdu du temps de jeu, ils avaient besoin de repères. Le Maroc a été plombé par sa suffisance. Et je pense que Rigragui l'avait annoncé, le sélectionneur, il dit « si je ne mets pas en demi-finale la CAN, je démissionne ». Ça veut dire que déjà lui-même, il avait placé la barre à un certain niveau. C'était une pression supplémentaire sur la tête de ses joueurs et sur lui-même. Heureusement pour lui, la Fédération royale marocaine l'a accepté pour qu'il continue éventuellement pour faire la CAN que le Maroc s'apprête à organiser. L'Algérie, elle a un effectif vieillissant. Et l'Algérie aussi a été liée aux fulgurances de son capitaine Riyad Mahrez. On a vu flamboyant en 2019 quand l'Algérie gagne la CAN en Égypte. En 2021 au Cameroun, il est carrément passé à côté. Et le sélectionneur Belmadi s'est dit, malgré l'effectif vieillissant, ils ont une chance de prouver que...
Est-ce que c'est le niveau de jeu qu'on attendait d'eux?
Non, pas forcément. On ne peut pas avoir des joueurs comme Bagdad Bouneja, Bilaili, Benacer, Riyad Mahrez et autres pour dire que l'Algérie joue comme ça. Mais juste que l'Algérie a été, je dirais, plombée par son sélectionneur. Il n'a jamais voulu changer. J'ai gagné avec eux en 2019. 2021, ils sont passés à côté. Ils vont me faire mentir en 2023. Donc, du coup, l'Algérie est restée sur l'échec du Cameroun et n'est jamais sortie de l'échec du Cameroun. C'est ajouté peut-être à l'élimination lors du dernier match pour les qualifications à la Coupe du Monde contre le Cameroun à Blida. L'Algérie est restée sur quasiment 10 ans sans défaite à Blida. Donc ça a été un coup de massue, l'élimination pour la Coupe du Monde. Okay. Belmadi n'a jamais voulu rien changer. Et pour revenir au Sénégal, je pense que le Sénégal est venu avec une certaine assurance à la CAN. Cette assurance, c'est quoi? Nous avons des certitudes, nous avons un effectif qui n'a pas trop bougé, nous avons gagné toutes les Coupes d'Afrique, excepté une Coupe d'Afrique des Nations, dans toutes les catégories, et on a des joueurs qui ont un niveau mondial. Mais le Sénégal a oublié que ces joueurs de classe mondiale, ils sont où maintenant? Édouard Mendy, le portier de Chelsea, la compétitivité en Europe et la concurrence en Ligue des champions des grands clubs, Sadio Mané, Kalidou, quittent cette compétitivité pour aller voir l'attractivité des pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite avec le pétrodollar. Leur niveau de performance lorsqu'ils sont venus en Arabie Saoudite, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Comment ils étaient avec l'équipe du Sénégal? Le Sénégal a oublié tout ça. Mais attention, Alou Cissé, le sélectionneur, a fait un choix fort en mettant sur le banc deux cadres majeurs, Cheikou Kouyaté et Idrissa Ganagué, pour les remplacer par des jeunes, Pape Matassar et Lamine Camara, pour moi, qui reste la satisfaction et la révélation pour le Sénégal et même pour tout le continent de cette CAN.
D'accord. Abdoul, vous avez écouté Ousmane Ndao qui a parlé, qui a donné des raisons qui seraient dues à l'élimination précoce de certaines équipes. Vous avez été sur place. Techniquement, qu'est-ce qui s'est passé?
Je dirais techniquement, non seulement la faute, surtout un combat. Je dirais la faute est incombe aux sélectionneurs. Parce que déjà...
Tous les sélectionneurs?
Bon, les sélectionneurs de ces grandes nations. Mm-hmm. Parce que déjà, l'équipe était basée sur des joueurs cadres. Comme le doyen l'a si bien dit, ces joueurs cadres, auparavant, évoluaient dans les grands championnats européens. Maintenant, ils sont partis au pays du Golfe. Il y a une grande différence entre le football européen et le football au Qatar. Il y a une très grande différence. Ces joueurs-là, maintenant, sont partis. Il n'y a pas assez de concurrence là-bas. Les duels ne sont pas les mêmes. Alors que l'équipe nationale se repose maintenant sur ces joueurs. Et je prends, par exemple, l'Égypte. L'Égypte, déjà, le doyen l'a dit, quand Salah s'est blessé, on dirait le football égyptien s'est complètement arrêté. Il n'y avait plus de jeu. L'équipe, même lors de son dernier match, l'équipe a passé pratiquement... tous les matchs à défendre. Parce que déjà, il n'y avait pas ça là. S'il n'y a pas ça là, quelle solution pour attaquer sans le joueur Sarr? Alors ça, c'est à l'entraîneur de réfléchir, de proposer des solutions lors des différentes séances d'entraînement. C'est ce qui a manqué. Le Sénégal, je peux dire, le Sénégal et le Maroc, c'est l'excès de confiance. Comme le doyen l'a dit, le Maroc est parti étant quatrième du dernier mondial. Alors, le Maroc a pris un local. Toutes les conditions étaient réunies. Le Maroc se voyait déjà vainqueur de cette CAN. Toutes les conditions étaient réunies. Les journalistes marocains qui étaient sur place, ils étaient plus de 120 journalistes marocains sur place.
Donc, vous rejoignez Ousmane quand il disait que le Maroc est venu avec l'espoir de remporter cette CAN.
Ils avaient la certitude même.
Pour eux, la CAN revenait
déjà. Voilà, la CAN étant quatrième du mondial, la CAN, c'était comme un droit pour eux. Oui, c'est ça. Alors, bon, le Sénégal, déjà, comme le doyen l'a dit, il y a le sélectionneur Aliou Cissé qui a fait des choix forts en mettant des jeunes. Mais il faut reconnaître que Sadio Mané, on a vu la différence entre la dernière édition, le Sadio Mané de la CAN 2021, et le Sadio Mané de cette CAN,
le Sadio Mané de Liverpool et du Bayern associé.
Et du Bayern, voilà, associé.
Associé. Maintenant, c'est le Sadio Mané de pétrodollars. Surtout que, voilà. Tu vois, il a tenté dans quelques rencontres, il a délivré deux passes décisives, marqué un but, mais ce n'est pas le Sadio qui tirait cette équipe du Sénégal que nous avons vu pendant la CAN. Je l'ai qualifié même de fantomatique. Khalidou Koulibaly, le capitaine, qui n'a plus ses jambes de 20 ans. Édouard Mendy, le portier, peu rassurant. Idrissa Ganagué et Cheikou Kouyaté l'ont appris à leurs dépens. L'entraîneur les a mis sur le banc. Maintenant, pour rester toujours sur la même logique des pays cadre ou ténor du continent, on a oublié le Cameroun. Le Cameroun, c'est quand même 5 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a toujours brillé dans une phase finale de CAN de par les problèmes de primes, de par les problèmes extra-sportifs. Mais cette année, ça n'a pas échappé aux Camerounais. Le Cameroun a été plombé par les problèmes de numéro 1 dans les buts. Tantôt André Onana, tantôt Fabrice Ondoa. Donc le sélectionneur Rigobert Song n'a jamais pu faire de l'un des deux son numéro un. Déjà en 2017, au Gabon, pour la CAN, ce problème a existé au sein de la tanière des Lions. le sélectionneur de l'époque, Hugo Broz, qui a amené l'Afrique du Sud à la troisième place 24 ans après, était à la tête du Cameroun. Il a été clair, il a dit à cette époque, Onana joue à l'Ajax, c'est vrai, mais le contexte du football africain l'échappe un peu, on doit jouer à Barcelone, il fait des va-et-vient, je mets Ondoa titulaire. Sinon, il me fallait un terrain sec. Moi-même, je choisirais André Onana. On ne peut pas être gardien numéro 1 à l'Ajax d'Amsterdam 4 ans de suite, à l'Inter Milan et aujourd'hui à Manchester United. Et de surcroît, entre guillemets, un Africain. Ça veut dire qu'on a une certaine plus-value, on a une certaine valeur. Donc, Onana méritait d'être titulaire. Mais voilà, le Cameroun s'est fait tirer une balle dans les pieds avec ses propres ses histoires, comme d'habitude nous les voyons en Coupe d'Afrique.
D'accord. Abdoul, toujours, est-ce que l'élimination de ces équipes a joué sur la qualité des matchs?
Non. Quand on regarde cette compétition, on peut dire que l'équipe de ces grandes nations n'a pas joué sur la qualité des jeux. Parce que toutes les équipes, je peux le dire, lors de cette... quand on produit du beau football. Alors, quand on regarde, par exemple, l'équipe sud-africaine perdre son premier match, 2-0, et terminer troisième d'une compétition, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que les équipes ont su relever la tête. Les équipes nous ont produit du beau football durant tous ces tournois. Alors que quand on regarde auparavant, les grandes nations du football, au moins, il y avait, sur le plan offensif, il y avait au moins deux ou trois joueurs qui amenaient l'équipe. Cette fois-ci, ces équipes sont adossées uniquement sur un seul joueur. Si ce joueur ne parvient pas à se montrer, l'équipe est en difficulté. Alors que les petites nations du football ont un jeu purement collectif.
D'accord. Alors, oui. Comment expliquer la performance des éléphants qui se sont qualifiés in extremis en tant que l'un des troisièmes meilleurs?
Et la performance, je peux dire, étant pays organisateur, être éliminé jusqu'au dernier match des phases de poule, je pense que quand la Côte d'Ivoire a ressuscité, je pense que les joueurs ont changé de mentalité. Je suis star, je suis une telle personne. Je peux dire qu'il y a eu un changement de mentalité au niveau de la sélection ivoirienne. Ensuite, il y a le changement d'entraîneur. On a vu, quand Emers Faye est venu, il a changé le milieu de terrain ivoirien. Ça a donné un nouveau visage au football ivoirien. Parce que déjà, Louis Gassé maintenant joué avec Sangaré, Fofana et Kessié. Mais quand Emers Faye a pris les commandes, il a mis Jean-Michel Seri comme milieu relayeur. Déjà, ça a donné maintenant un nouveau style de jeu au football ivoirien. Il y a plus l'engagement des joueurs. Je peux dire que la Côte d'Ivoire, la performance de la Côte d'Ivoire, non seulement il y a le public, il y a le système de jeu et il y a aussi la motivation des joueurs. Être éliminé, revenir dans son pays, alors les joueurs ne voulaient plus subir une telle humiliation encore. Alors ils ont changé de discours dans les vestiaires. Déjà après la CAN, on a vu le discours de certains joueurs. Ils ont dit, après le match 4-0 contre la Guinée équatoriale, il y a des cadres qui ont pris la parole dans les vestiaires. Quand ils se sont qualifiés encore comme meilleur quatrième, ces cadres sont venus encore pour donner plus de motivation, plus le système de jeu de l'entraîneur.
D'accord. Ousmane, on a vu une Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée grâce à la victoire du Maroc. Après, en huitième de finale, on a vu une Côte d'Ivoire qui encaisse, puis... et revient avec force et remporte les matchs suivants. C'est le cas du Sénégal en huitième de finale, le cas avec le Mali en quart de finale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé après avoir encaissé des buts, revenir au score?
Bon, avant de répondre à cette question sur la Côte d'Ivoire, Abdoulaye a évoqué un aspect sur lequel je voudrais répondre, c'est l'Afrique du Sud. Il a dit, moi, mon coup de cœur pour cette CAN, c'était l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que l'Afrique du Sud a montré à...
Troisième de la CAN.
Non, pas seulement. 24 ans après, la dernière fois que l'Afrique du Sud montait sur le podium, c'était lors de la première co-organisation d'une CAN en 2000 entre le Nigeria et le Ghana. L'Afrique du Sud a fini troisième. Et c'était 96 vainqueurs, 98 deuxième et 2000 troisième depuis plus rien. Mais le football sud-africain est revenu au plan avec le travail sur le plan local, chose que j'apprécie toujours en football. Et l'Afrique du Sud a montré que on peut faire quelque chose en investissant sur les joueurs locaux, en organisant mieux son championnat, en le rendant beaucoup plus professionnel. La quasi-totalité des joueurs sud-africains, excepté 3 sur 27, étaient du championnat sud-africain. C'est dû à la performance ces 3 dernières années des Mamelodi Sundowns dans les compétitions africaines des clubs, des Kaizer Chiefs, des Orlando Pirates, des Ajax Cape Town. Donc, avec un sélectionneur qui a une connaissance du football africain, qui est le Belge Hugo Broos, l'Afrique du Sud mérite comme exemple et d'être suivi par les autres pays, comme nous, par exemple Maliens, d'aller voir chez eux comment ils ont fait. Nous avons des clubs très populaires ici, Djoliba Stade Real, qui peuvent faire la même chose, mais avec une bonne organisation, on peut aller loin dans une phase finale de Coupe d'Afrique, surtout que notre meilleur résultat dans une phase finale de CAN en 72 à Yaoundé, on n'avait pas 20 professionnels à l'époque, on avait des joueurs qui évoluaient au plan local. Donc ça veut dire qu'on doit, toute l'Afrique, hein, je dis exceptionnellement nous, on doit aller se servir et aller à l'école sud-africaine, comme ils ont fait, pour obtenir de tels résultats, avec des joueurs entre guillemets moyens par rapport aux autres nations qui évoluent dans les grands clubs en Europe. Mais ils se sont frottés aux réalités du football africain en club. Ils voyagent beaucoup dans les autres pays, ils se sont acclimatés. Ils gagnent les compétitions africaines des clubs et en gagnant les compétitions africaines des clubs, ils sont venus à la Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de certitude et sans complexe. Bravo à l'Afrique du Sud. Maintenant, pour revenir à la Côte d'Ivoire, on l'avait dit ici une semaine avant la CAN, j'ai dit attention à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, si elle arrive à évacuer la pression, j'avais dit ici, si elle arrive à évacuer la pression et le poids de l'organisation, cette équipe ivoirienne peut remporter cette CAN. Et c'est ce qui est arrivé. La pression est partie d'où? Après le 4-0, Abdoul l'a dit, contre la Guinée équatoriale. Il y a eu ce déclic, le changement d'entraîneur. J'ai fouillé un peu, je n'ai pas trouvé trace qu'en pleine CAN, qu'un pays décide de limoger en tant qu'organisateur, je dis bien en tant qu'organisateur, son sélectionneur, et donner la chance à un local, même s'il était autour de l'équipe depuis quelques années, ancien international également, Emer Soyer, de continuer.
Il était
la fédération a cette... Oui, il était l'adjoint, l'un des adjoints. Son principal adjoint, c'était Ghislain Printemps. Mais Emer Soyer venait en deuxième position au rang des adjoints. Mais la fédération elle-même a tenté un coup, mais elle n'y croyait pas beaucoup. Je dis bien, elle n'y croyait pas que Emer Soyer va ramener cette coupe à la Côte d'Ivoire. Il y a eu... Un cataclysme, il faut chercher un bouc émissaire. Le bouc émissaire indiqué, c'était l'entraîneur, le sélectionneur. Ils l'ont mis de côté. Emer Soyer est venu. Il avait quoi? Son expérience d'avoir été professionnel, même si sa carrière s'est arrêtée à partir de 30 ans pour des problèmes médicaux. Ensuite, il a 2 Coupes du Monde de football derrière lui. Il a joué la Coupe du Monde 2006 et 2010 avec la Côte d'Ivoire, 3 Coupes d'Afrique des Nations. Donc, il connaissait un peu comment fonctionnait les joueurs ivoiriens. Moi, je pense, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, Imran, mais je suis sûr que le discours de Emer Soyer dans les vestiaires a été personne n'est titulaire. On va redistribuer les cartes. En redistribuant les cartes, on a vu des joueurs comme Kosonou, on a vu des joueurs comme Jean-Michel Seri, on a vu des joueurs comme Adingra qui revenait de blessure, Sébastien Allaire, qui se sont confiés de nouvelles responsabilités. Il fallait être Emer Soyer avec son expérience d'ancien professionnel pour mettre Kessié sur le banc, mettre Ibrahim Sangaré sur le banc, qui étaient depuis 2-3 ans les meilleurs joueurs ivoiriens, les deux, Ibrahim Sangaré et Franck Kessié. Les autres les complétaient. Mais en redistribuant les cartes, il a juste dit au portier Yaya Fofana, seul Yaya est titulaire, tout le reste, vous n'êtes plus titulaire dans mon équipe.
D'accord.
Donc ça a été le deuxième déclic. Le troisième déclic, évidemment, ça a été le public. Le public y a cru. Il a cru.
Et qui a
vous avez évoqué le match contre le Sénégal. Dès qu'ils ont réussi à éliminer le Sénégal avec des noms ronflants de joueurs qui avaient déjà la CAN, il y a 2 ans, elle s'est dit, la Côte d'Ivoire, nous, on va aller au bout. Et le public a compris, en aidant cette équipe, elle peut aller au bout.
Parlons d'un autre. Vous avez commencé à un moment donné à parler du Mali. Comment avez-vous trouvé la prestation des aigles du Mali pendant cette CAN?
Vous savez, si on est en boxe, hein, on va dire que le Mali a marqué des points. Mais hélas, nous sommes en football. On a marqué des points sur le plan comptable. Pourquoi? Parce que depuis 2013, en Afrique du Sud, on n'a pas franchi les huitièmes de finale d'une phase finale de CAN. En 2015, c'est élimination au premier tour, tirage au sort entre le Mali et la Guinée, paix à son âme, le président de la fédération d'alors, le général Baba Diarra, tire, le Mali ne passe pas, la Guinée passe. 2017, c'est élimination au premier tour au Gabon. 2019, en Égypte, élimination en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire. Et 2021, élimination au tir au but face à la Guinée équatoriale. Donc, sur le plan comptable, on a fait un petit bond, puisqu'on a fait 11 ans, on ne parvenait pas en quart de finale. Ça, c'est le côté positif de notre prestation à la CAN. Il y a eu aussi de l'évolution sur le plan du jeu, mais moi, j'aime dire aux gens qu'on ne gagne jamais une Coupe d'Afrique avec le jeu. C'était le cas les années 90, les années 2000, mais plus maintenant. Il faut avoir une équipe très très solide, une équipe très très soudée, une équipe au mental qui fonctionne et peut faire face à toutes les épreuves. À ce niveau, il n'y a pas de problème. On a produit le meilleur football de la CAN, mais on en est où? Élimination en quart de finale.
Voilà, élimination en quart de finale. Comment expliquez-vous cette élimination en quart de finale face à la Côte d'Ivoire qui était menée 1-0 jusqu'à la 90e minute?
Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut prendre en compte que souvent on néglige. Moi, je mets toujours ces aspects au devant quand j'essaie de faire ma propre analyse. D'abord, la gestion émotionnelle. Aujourd'hui, le football, surtout un match Mali-Côte d'Ivoire, la gestion émotionnelle, elle était très importante, cette gestion émotionnelle. La preuve, on a vu l'entraîneur extrêmement abattu à la fin du match. Il pleurait à chaudes larmes dans les bras de ses joueurs qui le consolaient. On mettait l'eau sur sa tête. Donc, il a failli sur cet aspect de la gestion émotionnelle d'un Mali-Côte d'Ivoire. Il a des circonstances atténuantes. C'était son premier grand match en tant qu'entraîneur dans sa carrière, jeune carrière. Il a fait des matchs, peut-être par-ci, par-là, mais une phase finale, un Mali-Côte d'Ivoire, il ne l'a jamais vécu. Là aussi, lui aussi, il va beaucoup apprendre. Après la gestion émotionnelle, il y a la gestion environnementale. Est-ce qu'on a un environnement qui nous permet d'aller loin dans une phase finale de CAN? Est-ce qu'on a un environnement idéal?
Oui, il était sur place, voilà, on va lui poser la question. Est-ce que l'environnement était favorable aux aigles du Mali?
Moi, je dirais que l'environnement était plus ou moins favorable. Parce que quand la délégation, selon les petites enquêtes que j'ai menées, quand la délégation malienne est arrivée en Côte d'Ivoire, il y avait au moins plus de 10 personnes de surplus. Mais le président de la Fédération malienne de football, même quand il n'est pas libre, il a su gérer ça. Il a pu négocier. Sinon, normalement, au moins une partie de l'effectif du staff technique, normalement, ne devrait pas être logé avec les joueurs. Déjà, je pense que ça, c'est un défaut. Je peux dire que ça joue sur l'environnement. Parce qu'on ne peut pas aller dans une compétition avec un staff pléthorique. Souvent, on ne sait pas qui joue tel rôle, qui joue tel rôle. Nous, on était avec 4 ou 5 intendants pour une compétition d'un mois. Je pense que ça, c'est trop. Je pense que l'environnement, on doit essayer d'assainir un peu l'environnement. Ça, c'est le travail du sélectionneur. Déjà, le doyen l'a dit, c'est sa première compétition. Parce qu'en tant que joueur, il a joué avec l'équipe nationale du Mali, mais il n'a pas joué une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une première expérience pour lui. Je pense que là, il va réfléchir à comment tout d'abord assainir l'environnement autour des joueurs.
D'accord. Les aigles ont mené les Ivoiriens 1-0 jusqu'à la 90e minute. Est-ce à dire que les aigles sont arrivés jusqu'à bout de souffle?
Non, je dirais que les aigles ne sont pas allés au bout de souffle. Déjà, je peux dire que sur ce match, bon, toujours, on peut toujours tolérer l'entraîneur, mais moi, je dirais que c'est le coaching. L'entraîneur a failli un peu dans ses choix. dans la gestion d'un match, de fin de match. Déjà contre le Burkina, il avait tenté la même chose. À la dernière minute, il a fait rentrer Fofana et Boubacar Traoré. Déjà pour gagner les duels aériens. Mais le Burkina avait même égalisé. Si ce n'était pas la VAR, le Burkina a égalisé aussi, vu sur un coup de pied arrêté. Là, lors de la conférence de presse d'après-match, il a dit qu'il a fait jouer ses deux joueurs pour gagner les duels. Déjà, on a vu que les deux buts ivoiriens, c'est le second ballon. Nous, on repousse la balle, les Ivoiriens récupèrent le second ballon et ils marquent le but. Là, je pense que déjà, l'équipe joue à 10 contre 11. L'équipe adverse ne parvient pas à produire son jeu. Quand j'ai dit produire son jeu, les défenseurs étaient obligés de balancer souvent le ballon. Mais déjà, quand il a fait les deux derniers changements, parce que déjà les deux premiers changements ont amené le premier but. Parce que c'est quand Nene et Foussène Diabaté qui sont entrés en jeu, il y a Nene qui a marqué le but. Mais les deux derniers changements, je veux dire, c'est ça qui a coûté à l'entraîneur.
D'accord. À chaque CAN, l'équipe malienne produit un beau football, mais échoue malgré tout. Pourquoi, selon vous?
Déjà, je vais laisser la parole à Ousmane Daoud. Déjà, ça fait deux ou trois reprises qu'on se retrouve ici. Il le répète tout le temps. Pour gagner une CAN, on n'a pas besoin de produire du beau football. Déjà, il l'a dit, le Mali, si c'était la boxe, le Mali a gagné des points. Mais si c'est une telle compétition, je pense que cette élimination... Moi, personnellement, j'ai fait deux jours, je n'arrivais pas à croire. J'ai fait deux jours, je n'arrivais pas à croire. Parce qu'après après la défaite, je n'ai pas assisté non seulement à la conférence de presse d'après match, je n'étais pas aussi à la zone mixte.
Voilà, on voit que le patriotisme l'a emporté sur le professionnalisme.
Ça se comprend.
On dit souvent le diable est dans les détails. Donc, nous ne cherchons pas le diable dans les détails. On a fait une CAN. Maintenant, il faut tirer les enseignements de cette CAN. Je l'ai dit, on est resté sur deux éliminations au premier tour, deux éliminations en huitième de finale. Maintenant, on est parvenu en quart de finale. La prochaine fois, quel va être l'objectif? Soit d'aller en demi-finale, soit d'aller jouer une finale et pourquoi pas gagner le titre. C'est mon vœu le plus cher pour mon pays. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? On doit se poser les bonnes questions. Oui. Tirer les enseignements. Si des têtes doivent tomber, que des têtes tombent. C'est comme ça que les autres...
Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous,
C'est comme ça que les autres font. Abdoul l'a dit. En fait, nous avons eu cette petite chance dans notre jeune carrière de journaliste sportif d'accompagner les équipes, de voir, d'assister à des CAN à notre âge. Nos doyens n'ont pas eu cette opportunité, cette chance à notre âge de participer à plusieurs phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Abdoul est à sa troisième, voire quatrième CAN à son âge. Je lui souhaite d'autres CAN meilleures encore. Et pourquoi pas voir son pays gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché si Abdoul n'a pas fait son travail, si Ousmane n'a pas fait son travail, qu'on ne soit pas dans le relationnel, qu'on ne soit pas dans la gestion, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon ci, c'est mon ça. Qu'on soit dans une gestion beaucoup plus professionnelle. Je dis bien beaucoup plus professionnelle.
On a évoqué les équipes. Parlant de ça, que pensez-vous de la prestation de Yves Bissouma?
Je tirerai pas sur Yves Bissouma puisque il est dans un collectif, il est dans un noyau. Je dirais plus ce qu'on attendait de Yves, on l'a pas eu. On l'avait parlé de son cas.
Il était diminué même voilà. Lors de cette compétition.
Ce qu'on attendait beaucoup plus de lui, on l'a pas eu. C'est une expérience pour lui aussi. C'est une expérience. Certes, il dispute sa troisième phase finale de CAN, mais c'est pas comme ça tout de suite que il va aussi s'imposer au sein et être ce qu'on attend de lui. C'est à lui de prendre conscience, c'est à lui de se dire « j'ai fauté, j'ai merdé, entre guillemets, je n'étais pas bien. Qu'est-ce qui a fait que je n'étais pas bien ? Il était souvent malade. Maintenant, oubliez cette canne, c'est ça le plus important à mon niveau. » Je tirerai sur tout le collectif, mais pas sur un seul joueur, puisqu'il gagne en équipe, il perd en équipe. Les individualités, auquel on attendait n'était pas aussi bon comme on le voulait. Le capitaine Amari, pour moi, le capitaine Amari a fait sa plus mauvaise canne depuis qu'il est dans cette équipe nationale du Mali. Donc ce n'est pas un problème de Yves, c'est un problème de collectif.
Parlant de collectif, est-ce qu'on a l'impression que le coach a amené des joueurs qui n'ont, dont on a vu certains qui n'ont jamais joué, certains qui ont moins joué?
Ça, c'est le propre d'une compétition comme la CAN. Tout le monde ne peut pas jouer. Même en Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas joué. La Côte d'Ivoire qui a gagné, au Nigeria, tout le monde n'a pas joué. Le Nigeria qui a gagné. Ça, c'est une phase finale de Coupe d'Afrique. On dit souvent, les sélectionneurs disent, on amène les 27 ou les 25 joueurs qui veulent vivre ensemble. Pas forcément les 25 meilleurs.
Je peux dire que le Mali est la seule nation à avoir pratiquement utilisé tous ses joueurs. C'est à l'exception de quatre joueurs.
Les deux gardiens.
Les deux gardiens, plus Moussa Doumbia et Sirène Doucouré. Mmh. Tous les joueurs maliens ont gratté quelques minutes lors de cette CAN.
D'accord. Vous l'avez dit, si sur le terrain de la CAN 2023 a connu un véritable succès, on ne peut pas en dire autant par rapport à l'affluence dans les stades. À qui la responsabilité, CAF ou bien CAN?
Bon, moi, je dirais l'affluence dans les stades. Souvent, la CAF dit que tous les tickets ont été vendus. Il y a la commission d'organisation, la même chose. Maintenant, le problème, c'était qu'il y avait des entreprises en Côte d'Ivoire qui ont acheté des billets. À la veille des matchs, maintenant, tu peux trouver un ticket de 3 000 francs. On te vend à 15 000, voire 10 000 francs. C'est ça qui a posé le problème. Les surenchères. Sinon, par exemple, à Boaké, moi, j'ai vu à la veille de chaque match de la Côte d'Ivoire, il y a le maire de Boaké qui organisait une soirée avec des jeux concours où il distribuait. Ce ne sont pas les rencontres uniquement de la Côte d'Ivoire. À chaque match à Boaké, à la veille du match, il organisait maintenant un petit jeu concours entre les jeunes maintenant pour distribuer les billets. C'était le maire même, c'était lui-même qui achetait les billets pour redistribuer à la population, pour qu'ils puissent partir au stade.
On me fait signe qu'on n'avait pas assez de temps. Sur la question de l'arbitrage, comment trouvez-vous le niveau global de l'arbitrage de cette CAN?
Je pense qu'à part deux ou trois rencontres, l'arbitrage au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations, je peux dire que ça a été. Les arbitres, on les oublie souvent, mais ils ont été au niveau même de la compétition cette année.
D'accord.
Quand j'ai dit deux matchs, là, je parlerai du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Mmh. Parce que déjà, les gens pensent que les gens voient uniquement le pénalty sur Ismaël Sarr. Mais déjà, le Sénégal menait 1-0. À la 9e minute, le tacle de Sadio Mané. L'arbitre, normalement, c'est la VAR, parce que la VAR devrait au moins appeler l'arbitre pour qu'il puisse regarder l'action.
J'allais poser la question de la VAR à Ousmane. Ousmane, la VAR a-t-elle bien joué son rôle?
Bon, moi, je suis d'abord parmi les gens qui ne veulent pas la VAR dans le football. Moi, je suis contre. Dès le début, mes arguments sont quoi? Le football, c'est l'instinct, le football, c'est le naturel. Il faut que certains commettent des erreurs et c'est ça qui fait la beauté, le charme du football. Maintenant, la VAR est venue dans le football pour aider les arbitres. Pour aider les arbitres sans son sens, mais ça ne veut pas dire que la VAR a la totale ou la majorité des décisions prises par les arbitres sur le terrain. Maintenant, il y a toujours des choses à revoir. Eux-mêmes, ils vont faire le bilan.
Parlons des leçons à tirer. Quelles sont les principales leçons à tirer de cette CAN?
Moi, j'utiliserai trois mots. Félicitations pour la Côte d'Ivoire, c'est le premier mot. Déception, regret pour nous, Maliens. Ce sont mes enseignements.
Alors, quelles sont les lacunes à corriger pour les prochaines compétitions?
Pour nous?
Pour nous.
pour nous, j'ai dit, il faut se poser les bonnes questions, s'asseoir autour de la table, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de quelqu'un, dire ce qui n'a pas marché, crever l'abcès et on va continuer. Mais tant qu'on va murmurer par-ci, par-là, c'est la faute d'Ousmane, c'est la faute d'Emran, c'est la faute d'Abdoul, on n'ira nulle part. Disons-nous la vérité pour pouvoir avancer. Ceux qui doivent rester en cours de route resteront en cours de route. Ceux qui veulent que ça avance, on avancera avec eux.
Les lacunes à corriger pour les prochaines compétitions?
Les lacunes, je pense qu'au Mali, on doit assainir l'environnement autour de l'équipe nationale.
D'accord. Et ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le bilan de la 34e CAN et nous étions avec Abdoul Dembélé, journaliste sportif, Ousmane Daou, journaliste sportif. Vous avez certainement constaté l'absence de Awa Kamiso Oko. À la présentation, c'était Imrana Akilou Omega. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.